You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les grands titres de ce dimanche, la confirmation que la nageuse australienne Shayna Jack a été contrôlée positive à une substance interdite, l'effondrement d'une mezzanine au deuxième étage d'une boîte de nuit en Corée du Sud, proche du village des athlètes participant aux mondiaux de natation, faisant 2 morts et 10 de blessés. Dernière étape du Tour de France ce dimanche et sauf accident, le Colombien Egan Bernal devrait être le champion de l'édition 2019. La nageuse australienne Shayna Jack a été contrôlée positive à une substance interdite, a annoncé hier la Fédération australienne de natation. Shayna Jack nie vouloir se doper. Elle a remporté 4 médailles lors des mondiaux de 2017, tout en relais, et a contribué à établir un record du monde du relais 4 x 100 mètres lors des Jeux du Commonwealth au Gold Coast. C'était en 2018. On écoute la responsable de Swimming Australia qui déclare que la situation est regrettable.
While an Australian athlete returning an adverse result is both bitterly disappointing and embarrassing to our team, our sport and our country, it does not in any way change the zero tolerance view that Swimming Australia has for a clean sport. I also want to make it clear that Shayna is entitled to a natural justice and a fair process, and that process is continuing.
Et puis les membres de l'équipe féminine australienne de water polo sont ressortis indemnes après l'effondrement d'une mezzanine au deuxième étage d'une boîte de nuit à Gwangju, en Corée du Sud, faisant 2 morts. 10 d'athlètes participant au championnat du monde de natation figuraient parmi les blessés lorsque la structure s'est effondrée. Le chef des pompiers de la région, Kim Yong-don, a déclaré que les Australiens étaient rentrés dans le village des athlètes. Le capitaine de l'équipe masculine néo-zélandaise de water polo, Matt Small, a déclaré à Radio News Talk ZB qu'il était sur le balcon quand il a cédé.
Literally just fell from underneath us. It didn't even feel stable the whole night, and then it literally collapsed. And there were literally dead people everywhere. I don't know. Pretty crazy stuff. None of the boys are hurt or injured though, so that's good. But everyone's a bit shaken up at the moment.
L'armée canadienne a été sollicitée pour aider à la recherche de 2 adolescents recherchés dans le cadre du meurtre de 3 personnes, dont un Australien et sa petite amie. La recherche se fait près de la ville de Gillam, dans le centre-nord du Canada. Les 2 teenagers sont accusés du meurtre au deuxième degré de Leonard Dick et sont soupçonnés d'avoir tué le touriste australien Lucas Fowler et sa petite amie née aux États-Unis, Sheena Dees. En Australie, le Parti national aurait défié le Premier ministre Scott Morrison en procédant à sa propre modélisation pour New Start, l'allocation chômage. Selon le Sunday Telegraph, un groupe de députés nationaux a demandé un examen des conséquences économiques de l'augmentation des allocations de chômage. Scott Morrison a demandé aux députés de la coalition de ne pas poursuivre des objectifs de politique personnelle. Il a été annoncé cette semaine que New Start, qui équivaut actuellement à environ $40 par jour, n'a pas connu d'augmentation réelle depuis 25 ans, mais sera examiné dans le cadre d'une vaste enquête sénatoriale. Et puis le ministre de la Communication, Paul Fletcher, a refusé de dire s'il était personnellement intervenu pour empêcher un comité parlementaire de recommander une augmentation du tarif New Start.
I speak to colleagues all the time, but I'm not going to go into the conversations I have with colleagues. The point I make is the standard practice is that a committee report is signed off on by committee members, and that is exactly what happened here.
Paul Fletcher, le ministre sur l'ABC. Les lois sur l'avortement en Nouvelle-Galles du Sud pourraient être annulées dans les semaines à venir. Le député indépendant Alex Greenwich présentera cette semaine un projet de loi visant à dépénaliser l'avortement qui a été rédigé par un groupe de députés de tous bords. Il a le soutien du ministre libéral de la Santé, Brad Hazard. La Nouvelle-Galles du Sud est le seul État ou territoire australien à ne pas avoir décriminalisé l'avortement qui peut être puni d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement pour les femmes et les médecins qui les pratiquent. 4 nouveaux médicaments seront ajouté au programme du Pharmaceutical Benefits Scheme cette semaine. Les médicaments traitent des tumeurs au cerveau, de la leucémie et des maladies des gros vaisseaux sanguins. Ils seront disponibles au prix d'environ $40 ou $6,50 avec une carte de concession. Le gouvernement a ajouté en moyenne 30 listes de médicaments par mois au PBS, Pharmaceutical Benefits Scheme, depuis 2013 pour un coût de $10,6 milliards. À l'international maintenant, avec la Cour suprême des États-Unis qui a accordé vendredi le droit d'utiliser $2,5 milliards du budget de l'armée pour construire 100 km supplémentaires de murs à la frontière avec le Mexique, en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique. C'est une victoire pour le président Donald Trump, comme l'explique Heike Schmidt pour Radio France Internationale.
Durant sa campagne électorale en 2016, le candidat Trump avait assuré qu'il ferait payer le Mexique pour la construction de ce mur censé stopper l'immigration vers les États-Unis. Finalement, il puisera dans les fonds du Pentagone. « Wow, grande victoire pour le mur », a aussitôt tweeté le président américain, savourant cette victoire qui arrive à point nommé pour réaliser sa promesse électorale phare et qui reste un enjeu crucial en vue des élections présidentielle à venir. Une victoire politique que Donald Trump a obtenue grâce à une Cour suprême désormais acquise à sa cause. Par 5 voix contre 4, les juges, majoritairement conservateurs, ont autorisé le financement du mur par l'armée, ce que le Congrès avait pourtant refusé. Pour Nancy Pelosi, chef des démocrates à la Chambre des représentants, Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs. Les pères fondateurs des États-Unis ont créé une démocratie gouvernée par le peuple, par une monarchie, écrit-elle dans un tweet. Les organisations de défense des droits de l'homme s'insurgent contre, je cite, le pillage de fonds militaires pour un mur frontalier xénophobe.
Michael Schmidt pour RFI. Le président américain Donald Trump veut taxer le vin français pour riposter contre la taxe numérique aux grandes entreprises technologiques américaines imposées par la France. Écoutez la réaction de Jean-Marie Fabre, le président des vignerons indépendants. Les vignerons indépendants responsables de 55% de la production française de vin.
On est très attentif aux annonces politiques faites par le président Trump, même si on y est habitué depuis quelques mois maintenant. C'est une stratégie chez lui de s'attaquer au secteur État membre par État membre stratégique des relations commerciales entre les États-Unis et les pays de l'Union. Vous savez, depuis 8 ans, les vins américains ont progressé de 200% sur le territoire français. Les taxes qui sont appliquées aux vins américains sur le sol français le sont par l'Union européenne. C'est pas la France qui fixe ces taxes. A contrario, c'est bien les États-Unis qui fixent les taxes sur les vins d'importation française aux États-Unis. Chaque fois qu'un produit est taxé de manière importante, forcément ça peut avoir une incidence directe sur les volumes commercialisés, effectivement donc sa performance. Ceci étant, aux États-Unis, la consommation du vin, elle est portée par des consommateurs classe moyenne, moyenne sup, et tout dépend le seuil sur lequel on se situe, mais je pense qu'aujourd'hui, la menace existe, on ne sait pas si dans la réalité, elle peut être légèrement déstabilisatrice. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que notre secteur, le secteur du vin, secteur stratégique, soit un secteur pris en otage par rapport à des relations commerciales qui sont autres, c'est-à-dire à un secteur qui n'est pas le nôtre.
En Tunisie, une foule émue a assisté aux funérailles nationales du président Béji Caïd Essebsi, unité rare pour le pays, comme l'explique Michel Picard pour RFI.
Le fils du président défunt avait appelé le peuple entier à rendre un dernier hommage à Béji Caïd Essebsi. Mais au-delà de l'appel du fils, c'est de manière spontanée et naturelle que le peuple a répondu présent. Massé d'abord le long de la 20aine de kilomètres qu'a emprunté le cortège entre le palais de Carthage et Tunis, puis au cimetière où Amila et Habiba sont en pleurs.
Je peux pas te parler, je suis triste, triste. Béji Caïd Essebsi, c'est le meilleur. Qui travaille à la Tunisie, non pas pour l'argent, pour la Tunisie.
Parmi les anonymes, Ahmed, la 20aine, se souviendra d'un homme chaleureux.
D'abord, son humour, sa manière de traiter, même dans les situations les plus difficiles, il était quoi, à l'aise. Il était l'homme de la situation, c'est ce qu'on retient.
Drapé de l'emblème national, rouge et blanc, Yasmine, une rose à la main, a les larmes aux yeux, non de tristesse, mais d'émotion, pour celui qui lui rappelle Bourguiba.
parce qu'on n'a pas rendu hommage à Ali Bourguiba. Et là, c'est un devoir de venir saluer le président. C'était un président exceptionnel, avec une petite touche bourguibiste.
Et à l'heure de l'entrée du corps dans le cimetière, c'est une foule en liesse qui a voulu marquer ce moment d'histoire.
À Hong Kong, grande manifestation à nouveau hier samedi et la police a tiré du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc à Yuen Long. L'envoyé spécial de RFI, Zifan Liu, est avec des manifestants hongkongais.
Avant la semaine dernière, la cible des policiers et des gangsters étaient les manifestants. Maintenant, même une femme enceinte se fait frapper par des voyous. Chacun d'entre nous est en danger. Chacun d'entre nous.
Même si les personnes d'âge moyen ne s'intéressent pas à la politique, quand ils attaquent des personnes normales, ce n'est plus un problème politique, ça devient un problème social. Donc ils se réveillent et beaucoup d'entre eux commencent à nous montrer leur soutien.
Nous avons vu beaucoup d'employés gouvernementaux montrer leur soutien en prenant leur carte d'identité en photo. S'il n'y a pas de réponse de la part du gouvernement, ils pourraient considérer le fait de démissionner et de rejoindre notre mouvement.
Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson s'est déplacé dans le nord de l'Angleterre hier pour dévoiler ses priorités pour le pays. Reportage Marina Das pour RFI.
Le système de santé, la police, l'éducation, les transports, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont échappé au discours de Boris Johnson ce matin à Manchester. Un vrai discours de campagne pour sa première intervention en tant que Premier ministre en dehors de Westminster. Il est venu promettre de nouveaux investissements dans les régions qui ont voté en faveur du Brexit lors du référendum de 2016. De quoi ravir les mancuniens, mais ces promesses d'investissement soulèvent tout de même beaucoup de questions, notamment sur leur financement. D'autant plus que Boris Johnson a déjà promis hier d'embaucher 20 000 policiers supplémentaires d'ici 3 ans. Interrogé par la presse sur la viabilité de ces investissements, le Premier ministre affirme qu'il n'hésitera pas à piocher dans les 4 milliards d'euros mis de côté par le gouvernement de Theresa May pour subvenir aux éventuelles difficultés qu'un Brexit sans accord pourrait entraîner. Et sur le sujet du Brexit, Boris Johnson y voit une énorme opportunité économique. Il dit être prêt à s'engager auprès de l'UE, mais seulement si le filet de sécurité nord-irlandais était retiré de l'accord de divorce négocié par Theresa May.
Après la canicule en France, plus aucun département français n'est en vigilance rouge ni orange. Les autorités ont décidé de mettre fin au message de prévention et de suspendre la plateforme Canicule Info Service. Un bilan sera présenté, comme l'explique Léa Boutarivière pour RFI.
Pour le ministère de la Santé, le bilan devrait être modéré, mais il faut tout de même noter que cet épisode caniculaire a causé une hausse des cas d'hyperthermie. L'hyperthermie, c'est lorsque la température locale ou générale du corps augmente au-delà de la normale à cause de l'accumulation de la chaleur extérieure et c'est potentiellement mortel. Même si on n'a pas encore de chiffres complets, on sait déjà que jeudi, au plus fort de l'épisode, l'activité due aux maladies causées par la chaleur ne représentait que 1,6% des visites aux urgences et un peu plus de 3% des consultations de SOS médecins. Alors même si cette canicule est terminée, des complications peuvent encore apparaître, notamment chez les personnes âgées et fragiles. Par exemple, des maladies chroniques peuvent s'aggraver si le corps a épuisé toutes ses capacités en luttant contre la chaleur. C'est pour cela que le personnel médical va rester mobilisé pour encore quelques jours et c'est également pour cette raison qu'on ne disposera d'un bilan chiffré que d'ici quelques semaines. Pour rappel, en 2018, 1480 personnes avaient perdu la vie à cause de la canicule.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth, nuageux et maximal de 19 degrés. Adélaïde, de la pluie 17. Melbourne, nuageux 15 degrés. Hobart, nuageux 13. Canberra, du soleil 14 degrés. Sydney, du soleil maximal de 29 degrés. Brisbane, du soleil également 24 degrés. Cairns, quelques averses, 26 degrés. Darwin, il fera beau, 32 degrés. Alice Springs, où il fera très beau, 27 degrés. Un rappel des grands titres de ce journal, la confirmation que la nageuse australienne Shayna Jack a été contrôlée positive à une substance interdite. Dernière étape du Tour de France ce dimanche, et sauf accident, le Colombien Egan Bernal devait être le champion de l'édition 2019. Fin du journal, merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.